5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Décollage.
Bonjour Jean-Michel.
Bonjour Gérard.
Et bonjour à tous. Bienvenue dans l'émission Orion, chemin de l'espace. Donc, comme chaque mois, eh bien, nous allons vous présenter l'actualité spatiale, ce qui s'est passé autour de notre bonne vieille Terre. Et plus particulièrement, nous arrêtons avec vous, Jean-Michel, sur le projet de station lunaire hein, qui est en étude. Bien entendu, on va se poser la question, puisqu'on est dans le cinquantenaire, qu'est-ce qui se passait au mois de mars 69. On va voir que ça bouge toujours et de plus en plus en Chine également. Et puis les USA qui sont de retour dans les vols habités puisqu'ils sont en train de préparer la capsule Dragon qui viendra se substituer à la capsule Soyouz. Nous terminerons par quelques recommandations de lecture comme chaque mois. Mais pour commencer, l'actualité c'est toujours les lancements du mois, donc peut-être moins de lancements que d'habitude.
Oui, alors donc il y a eu un début d'année quand même assez fructueux sur le plan des lancements. Mais on va dire que sur ce mois de mars, le 16 mars, donc une fusée américaine, Delta 4, qui a lancé un satellite militaire, alors WGS-10, hein, donc c'est le dixième de la série, donc des satellites ultra perfectionnés, lancés d'abord en orbite terrestre, puis qui vont se positionner en position géostationnaire à 36 000 km.
Alors ultra discret aussi, qu'est-ce que l'on sait de ce dixième et puis des neuf précédents?
Tout ce qui est militaire, que ce soit du côté USA, Russie, Chine,
de la grande muette.
Bien sûr. Hein. Alors, on sait où sont ces satellites, on sait comment ils tournent, mais bon, on sait que, bien sûr, ils ne sont pas là pour faire simplement des photos. Hein. Donc, c'est du renseignement, c'est de l'étude. Et puis, voilà, donc, c'est le secret militaire donc, autour de ces objets-là.
Alors, en termes de positionnement, ils sont à haute altitude
comme... Alors là, celui-là, il sera en position géostationnaire à 36 000 km, mais il y en a qui sont en orbite beaucoup plus basse, hein, suivant les missions. On voit aussi que des satellites ont des fois des vocations, comme les satellites européens Sentinel ont des vocations civiles et militaires.
D'accord. Donc celui-ci, en l'occurrence, c'est un gros satellite. On décrit souvent nos satellites modernes comme des petits CubeSat.
Ah là, c'est c'est beaucoup plus gros.
C'est beaucoup plus gros. Oui. D'accord. C'est quelle taille?
J'ai pas l'ordre du poids de la taille, mais enfin, c'est beaucoup plus gros. Ah, oui, celle-là, on tourne aux alentours de quelques tonnes. Oui.
Voilà, donc un lancement militaire par les USA. Et puis, et l'actualité dans l'ISS également, il y a des gens qui viennent.
Alors l'ISS, il y a eu un retour donc, des équipages à 6 personnes dans la station spatiale. Donc ces derniers jours,
hein, donc, ils
viennent de monter, puisqu'il y a eu un accident de Soyouz, enfin un incident où le Soyouz n'avait pas pu partir, mais les hommes étaient revenus au sol sans souci. Donc là, tout s'est bien passé, quelques orbites autour de la Terre et on rejoint la station spatiale.
Ce petit incident, on peut en dire quelques mots? C'était quoi? C'était à terre avant.
C'était sur la fusée Soyouz, donc un incident donc à la fin de l'année 2018. Donc un booster qui avait mal fonctionné. On a eu toutes les versions. Hein. Voilà. Donc l'étage n'a pas pu fonctionner normalement. Donc retour sur Terre avec parachute, sauvetage réussi, pas de souci.
Donc au passage, on voit et on mesure qu'il y a quand même des procédures d'urgence, une sécurité que ce type d'aléa important.
Mais normalement, il n'arrive pas souvent, mais lorsqu'il arrive, on s'aperçoit que toutes les procédures ont été mises en place et les astronautes sont revenus au sol sans souci, voilà, très rapidement après le décollage.
Donc voilà, incident fin 2018, incident terminé, et dans l'ISS, on a nos six personnes.
Là, donc retour réussi, donc avec une procédure rapide, parce que sur les Soyouz, des fois, on peut tourner un peu plus de 24 heures avant d'aller rejoindre la station. Là, ça a été une procédure très rapide, puisque quelques tours de terre, on rejoint l'ISS, c'est le docking, hein, on s'accroche à la station spatiale, et puis bien sûr, avant d'ouvrir les portes, c'est assez long, hein, c'est entre 2 et 3 heures.
Thank you.
Il est à l'étude, mais c'est un vrai projet que les États-Unis sont en train d'élaborer et ils préparent une station lunaire.
Alors, le 11 mars, donc, la NASA a publié la contribution à la future station lunaire. C'est une petite ISS, une petite station spatiale, hein, qui sera en orbite autour de la Lune. Donc, cette plateforme nommée Gateway, voilà, et où donc plusieurs agences spatiales vont participer.
Alors, donc, l'ISS, quand même, reste l'ISS. Elle continue à tourner autour de la Terre avec les programmes de recherche, etc. Et donc là, c'est quelque chose qui va... Une nouvelle station, on va dire.
Une nouvelle station.
Mais qui tournera autour de la Lune. Il n'est pas question de se poser sur la Lune.
Non, pas pour l'instant. Pas avec ce module-là.
D'accord. Hein. Là, la technique est maîtrisée parce qu'on est allé dans la Lune, donc on s'est tourné autour de la Lune, il n'y a pas de problème. Et il est prévu qu'elle soit habitée.
Voilà, donc habitée. Alors là, donc après, de cette station, pourra-t-on aller se poser sur la Lune? Quels vont être les véhicules qui vont être...
D'accord, donc on voit bien effectivement que la Lune est...
Il y a un gros projet.
Il y a un projet, gros projet de Lune. Donc là, on s'en approche. Combien de personnes, sont prévues dans cette ISS lunaire?
Non, on ne le sait pas trop. Ce que l'on sait, c'est donc déjà les nations qui participent.
Oui, alors voilà, ça c'est un autre aspect. C'est effectivement les USA qui travaillent, mais c'est derrière les USA, c'est l'ensemble des partenaires de la station spatiale internationale.
On va retrouver les partenaires donc avec l'ESA.
L'ESA, c'est-à-dire l'Europe.
L'Europe, la NASA, bien sûr, puisque.
Les USA.
Roscosmos.
Les Soviétiques, enfin ouais, les Russes. Hein. Pardon.
Donc la JAXA, donc, c'est les Japonais.
Japonais.
Et puis donc le Canada qui a fait ce Canadarm, ce bras qui permet, ce bras robotique qui est sur l'ISS et qui là aussi ferait donc un nouveau bras robotique, nouvelle génération sur cette station.
Donc cinq partenaires, deux remarques. D'abord, les Russes et les États-Unis sont toujours ensemble. Je le constate.
Voilà,
on a souvent évoqué qu'il pouvait y avoir effectivement des divergences. Et puis, une absence, c'est la Chine. Alors même que la Chine est en train de monter en puissance, notamment du côté de la Lune, je ne la vois pas dans ses partenaires.
Non, pour l'instant, elle n'est pas inscrite. Alors, est-ce qu'il y a des discussions dont on n'est pas au courant ? Peut-être. Mais pour l'instant, dans ce qu'a publié la NASA, donc je vous dis, ce 11 mars, hein, c'est cette contribution donc, à cette plateforme Gateway. Alors, on sait déjà que l'ESA a son module, hein, l'espace spatial européen, un module qui s'appellera Esprit. Voilà. Donc, vous voyez, ça se construit sur le papier avant de construire les modules, parce que alors, il y aura un appel d'offres, bien sûr. Il y a toutes les grandes entreprises qui fabriquent des satellites qui seront appelées donc à proposer des modèles. Mais bon, c'est déjà dans les cartons. Hein, il y a déjà des plans.
Bon, ce projet, il est daté, il est phasé. On a des dates. À quel horizon pourrait voir cette station tourner autour de la Lune.
On parle 2022, mais 2022. Bon, ça fait court pour moi, parce qu'il y a quand même... Alors après, si tout le monde est d'accord, puis comme je vous dis, donc déjà les...
C'est pas la technique qui
Non,
qui
la
freine.
Technique, donc aujourd'hui, une fois qu'on a lancé tout ça, les études sont faites, il y a aussi, le plus important, ce sont les budgets.
Voilà. Derrière ça, je pense qu'il y a peut-être un projet plus... on pense à réalunir une nouvelle fois sur la Lune. Base lunaire est-elle en question dans ce projet?
Alors voilà, on sait bien sûr qu'on en a parlé la dernière fois, hein, que donc, la Chine est sur la face cachée de la Lune. Il y a eu le Google Prize là, donc, qui a fait un grand prix pour lancer un petit module qui va arriver au mois d'avril aussi sur la Lune. Mais que tout le monde s'intéresse à la Lune. L'espace spatial européen a des projets aussi sur la Lune, construire une base lunaire. Là, on n'est plus en orbite, mais c'est la base lunaire.
Ouais. Et là, c'est, on en parle sérieusement de
On
ça,
en parle sérieusement. Donc,
des
modules habités. Non.
Est-ce que le fait qu'il y ait ce projet de station lunaire indique quand même que l'on va vers une base lunaire?
On y va. Hein, bon. Ça, c'est sûr. Par contre, dans les dates, suivant les informations que vous pouvez lire, que ce soit du côté de l'ESA, que ce soit du côté du CNES, que ce soit aussi des informaticiens qui travaillent là-dedans ou des gens qui travaillent dans la construction, comme Thales Alenia, par exemple, ou Airbus Defence and Space. On donne des dates, 2022, 2025. Voilà, donc on est un petit peu au niveau de la date dans un flou.
De la station à la base, est-ce que l'on peut imaginer un voyage plus lointain vers Mars, par exemple?
Alors, effectivement, si on cherche à aller sur la Lune, hein, c'est pas pour y passer des vacances, c'est un tremplin pour un jour peut-être aller coloniser, comme on dit souvent, coloniser Mars.
Ah, c'est, on parle de colonisation.
On parle de colonisation souvent. Hein,
voilà. Il manque de vocabulaire, je pense quand même. Bon, bah, écoutez, ça c'est un projet que l'on va suivre de toute manière et on n'est pas encore sur Mars, mais on vous tiendra au courant. Eh bien, il y a tout juste 50 ans, en mars 1969, et on était également dans une approche de la Lune, qu'est-ce qui se passait exactement? Qu'est-ce qui s'est passé très exactement en mars 1969?
Alors, le 3 mars 1969, eh ben, James McDivitt, David Scott et Russell Schweikart ont pris place dans la capsule Apollo, au sommet d'une fusée Saturn V, et c'est la répétition générale des enchaînements d'accrochage, de décrochage du LEM, mais ça ne s'est pas fait sur la Lune, ça s'est fait en orbite terrestre.
D'accord, là on était dans la mission Apollo 9. On rappelle que c'est Apollo 11 qui a mis le pied sur la Lune. Donc il y en avait encore une à venir. Et là, on préparait, on rodait, on vérifiait fonctionnement.
C'est surtout le LEM, hein, le Lunar Module, qui est l'objet qui va nous permettre de se poser sur la Lune.
La petite araignée tout le monde a en tête. Hein.
Voilà. Donc là, il est pratiquement au point, mais on va voir s'il peut s'accrocher au module de commande, se décrocher, se retourner. Il est en deux parties. Est-ce que les deux parties peuvent se séparer? Et tout ça va être testé en orbite terrestre.
D'accord. Ça va durer combien de temps, cette mission?
Une dizaine de jours.
Une dizaine de jours. Donc voilà, il y a 50 ans, voilà où on en était. Sur Terre, il y avait peu de personnes pour penser qu'on allait rapidement mettre le pied sur la Lune. On aura l'occasion de revenir sur ce choc culturel de l'époque.
Les Américains y croyaient vraiment, ils étaient prêts, ils accéléraient, puisque nous sommes en mars et puis qu'on y est allé en juillet. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment la phase de test de ce module lunaire.
Donc en mars, on était prêts, mais on a testé ça en tournant autour de la Terre.
Voilà.
Par contre, tout de suite derrière, Apollo 10 fera la même chose. On en reparlera le mois prochain.
Voilà, donc ça sera au mois de mai.
Mais autour de la Lune.
Autour de la Lune.
Très bien. Autre sujet du mois, ça bouge quand même beaucoup du côté de la Chine, hein, puisque comme les Américains, comme SpaceX, ils sont en train de tester, de roder une fusée chinoise réutilisable.
Alors, c'est Link Space, société privée des start-up chinoises, une fusée qui revenir comme SpaceX, comme la Falcon 9, le premier étage, revenir se poser. Donc la base est déjà construite en Chine et cette fusée va revenir se poser pour être réutilisée. Donc on essaye là aussi de faire baisser les coûts, d'avoir des matériaux perfectionnés pour avancer sur la conquête spatiale.
D'accord. Jean-Michel, toujours la Chine, qui décidément est très 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 présente, très active, avec un nouveau projet, c'est OneSpace.
OneSpace, start-up, société privée chinoise, qui envisage de lancer des petits satellites entre 120 et 500 kilos. Donc ça sera surtout en orbite basse. Hein. Mais vous voyez, on lance du gros, mais on lance aussi beaucoup de petits satellites. Il y a les CubeSats qui sont très bas, mais là, ça sera des satellites qui auront des durées de vie de quelques années.
Voilà, c'est parti de de quelle base sur,
alors, c'est une des bases les plus importantes en Chine, c'est Jiuquan.
Jiuquan, voilà, oui, voilà. Ça nous permet de rappeler que, voilà, que la Chine a un certain nombre
de bases spatiales.
De gares intersidérales.
Voilà, oui.
Oui, donc des petits satellites. C'est prévu pour cette année
Alors, la fusée est construite, hein, puisque j'ai vu une image. Donc, elle est en position couchée sur son
D'accord.
rail. Hein. Donc, les lancements vont avoir lieu dans les mois qui viennent.
Donc, en fait, ils sont très tendance du moment, c'est-à-dire à la fois société privée, qui voilà. procèdent à, enfin qui deviennent un peu partout, ouais, aux oui. États-Unis, en Chine aussi.
Alors, quand on parle de société privée en Chine,
oui,
donc
oui.
c'est que le sens du privé à la chinoise, c'est pas le sens du privé à l'américaine.
On est d'accord, mais enfin bon, c'est quand même, c'est pas voilà. l'État, c'est pas l'armée, c'est pas.
Voilà, ce sont voilà. des start-up qui se développent et qui font avancer le spatial.
Voilà, donc prévu pour 2019. Et puis aussi, deuxième tendance lourde, c'est le retour, c'est-à-dire le principe de réutiliser partie des lanceurs. Quoi.
Ça, c'est une tendance qui se...
Ah, je veux dire, ça va devenir une exigence, j'allais dire, budgétaire.
Voilà, parce qu'on essaye de lancer plus rapidement, moins cher, si possible.
D'accord. Donc voilà, les Chinois, toujours là et de plus en plus. Et puis, également, une capsule Dragon. Alors, la capsule Dragon, on va en parler un petit peu, parce que la capsule Dragon, c'est un véhicule qui permet de lancer des hommes dans l'espace. Jusqu'à présent, on n'avait que Soyouz.
Alors, jusqu'à présent, on n'avait que Soyouz pour lancer les hommes. La capsule Dragon, elle existait, puisqu'elle ravitaille la station spatiale.
Station, oui.
Donc, jusqu'à présent, on mettait du fret. Et donc, cette nouvelle capsule, donc... Crew Dragon, hein, voilà, DM1, donc a réussi son vol automatique, c'est-à-dire d'aller s'accrocher à la station spatiale. Donc il a fallu aménager la station spatiale pour un nouveau port d'attache. Donc tout ça a bien fonctionné. Alors à l'intérieur, on a mis un mannequin qu'on appelle le Replay. Hein. Ce mannequin était bardé de capteurs, donc on a pu voir au décollage ce que le mannequin enregistrait, les accélérations,
ouais, toutes les souffrances,
les vibrations. Tout ça, tout ce que peut subir un astronaute. Donc, arriver à la station, rester 4 ou 5 jours, décrochage et retour sous parachute, donc dans l'océan Atlantique, récupéré donc, par un bateau de SpaceX. Et là, tout s'est bien passé.
D'accord. Donc, en fait, les USA qui reviennent sur les vols habités, j'allais dire par eux-mêmes, c'est quoi? C'est une quête d'autonomie, d'indépendance?
Quête d'indépendance, hein, voilà. Alors, bon, les USA sont encore pas ficelés là-dessus, hein, c'est pas très sûr, puisqu'ils ont encore acheté des sièges de Soyouz pour 2020.
Alors, ce vol habité, ce premier vol, il est prévu pour combien de personnes?
Alors, pour deux personnes, hein, Robert Behnken et Douglas Hurley, donc qui, normalement, si tout se passe bien, en juillet 2019, hein, devrait faire ce premier vol test dans la capsule Dragon. Donc, ça ne sera plus un vol démonstration.
Eh bien, on ne sera pas loin des 50 ans du premier pas sur la Lune.
Et oui, ça serait, si c'était le 21 juillet, ça serait un beau clin d'œil. Hein. C'est une capsule quand même qui est prévue pour en transporter 7 astronautes. Hein. Donc, ils seront que 2 là, pour le vol de test.
Mais, ouais, d'accord.
Et donc, c'est vraiment quelque chose...
Quel travail faut-il faire sur une capsule Dragon qui est un camion qui amène des produits à l'ISS dans une capsule Dragon vol habité?
Eh bien, c'est l'aménagement des sièges.
C'est compliqué. C'est quoi? Techniquement, c'est qu'un problème d'aménagement ou bien il y a d'autres problèmes?
Ah ben, il y a un problème d'aménagement, puis de surveillance des hommes. Voilà, après, donc, vous avez tout l'appareillage.
De pression, de choses comme ça.
Exactement,
la
respiration, hein, les conditions de vie, hein, ça ouais, c'est très important. Bon, un petit peu de nourriture, voilà.
Parce que, bon, les USA ont lancé des hommes avant la capsule Soyouz. Ils l'ont abandonné. Ça fait quand même pas mal de temps que le seul véhicule pour les hommes, c'est Soyouz.
Depuis l'arrêt des navettes spatiales.
Depuis l'arrêt des navettes. Voilà, et là, ils reprennent la main là-dessus.
Voilà. Ah, donc, ils l'ont repris la main. Et donc là, la place est laissée aux sociétés privées. Donc, SpaceX, on en a parlé beaucoup dans cette émission, qui s'est développée et qui aujourd'hui est très, très pointue, maintenant au niveau du spatial.
D'accord. Le lanceur, puisque là, on rappelle que quand on parle de la capsule Dragon ou de la capsule Soyouz, ce ne sont que des petits véhicules, des petits modules qui se mettent en haut haut de la fusée.
Voilà.
Voilà. Et la fusée, on appelle ça un lanceur. Quel est le lanceur prévu pour le Dragon?
Donc, c'est la Falcon 9.
Hein, Falcon 9.
Falcon de SpaceX. Donc, là, une fusée maintenant qui a vraiment fait plus que des essais, puisqu'elle est vraiment au point.
Voilà. Si vous avez vu des images, vous qui nous écoutez, c'est cette fusée qui s'en va avec un certain nombre de boosters qui redescendent et qui viennent se poser sur une barge en pleine mer.
Qui revient se reposer, oui. Voilà. Et puis, on attend ce vol habité.
Bien, et bien après tous ces projets de Lune, de Mars et d'autres, quelques mots sur l'actualité de l'astronomie. Alors bon, mois de mars, 21 mars, c'est l'équinoxe, c'est le printemps.
Donc 20 mars à 21h58, nous avons fêté l'équinoxe, on va dire. Alors qu'est-ce que c'est que l'équinoxe? Eh bien, c'est quand le soleil passe au-dessus de l'équateur céleste. L'équateur céleste, c'est le prolongement de l'équateur terrestre. Et là, le soleil apparent va passer au-dessus et puis va bien nous éclairer pendant tout cet été, printemps-été.
Il va bien nous éclairer plus chaudement et plus longtemps.
Voilà. Donc il est passé à ce qu'on appelle en astronomie le point vernal.
Le point vernal.
Et bien sûr, nous aurons un autre point, le point équinoxial d'automne. C'est quand le soleil va repasser sous l'équateur céleste. Voilà. Et donc, on est un petit peu moins éclairé, c'est-à-dire les rayons du soleil sont beaucoup plus diffus, donc on a moins de chaleur.
Voilà, et puis conséquence directe pour nous tous, eh bien, à partir de ce point vernal et de cet équinoxe, eh bien, les jours rallongent, les jours sont plus longs. Ce jour-là, les jours font 12 heures et les nuits font 12 heures.
D'où la notion d'équinoxe.
Voilà, et de plus en plus, le soleil brillera longtemps et il brillera de plus en plus haut, ce qui nous chauffera d'autant. Pour ça, il y a un certain nombre d'ateliers au groupe Orion qui expliquent très bien aux enfants et à leurs parents tous ces phénomènes de mécanique céleste et les conséquences sur nos vies. Donc voilà, c'est le printemps. Pour terminer, quelques recommandations de lecture, comme d'habitude.
Alors, puisqu'on est dans l'année lunaire, on va rester encore ce mois-ci sur des livres sur la Lune. Hein. Alors, je vous en propose un, ça s'appelle ici « La base de la tranquillité » de Serge Borderès. C'est l'édition du CEPA du S. Alors, ce livre est un petit peu plus technique, puisqu'il parle notamment de la partie informatique qui a été faite donc pour l'émission Apollo. Donc, mais livre très, très intéressant.
Bien.
Un deuxième beaucoup plus ludique. Il est tout simplement, comme beaucoup, il s'appelle « Ils ont marché sur la Lune ». Hein, voilà, donc, vous voyez, 50 ans d'épopée photographique.
Alors, s'adresse à qui,
aux amateurs de belles images. Puisque c'est surtout un livre de recueil d'images, si vous avez l'occasion de pouvoir le feuilleter.
D'images de la Terre, vu de loin aussi.
De la Terre, de la Lune, des astronautes, voilà. Un petit coup de cœur pour ces très très belles images qui sont dans ce livre.
D'accord, on rappelle donc ces deux livres.
Voilà, donc celui-là, Ils ont marché sur la Lune, donc je vous dire l'auteur, c'est Pierce Bisoni, et l'éditeur, par contre, c'est De La Chaux et l'Insté.
Voilà, et le premier?
Le premier, donc, on l'a dit, hein, donc ici, La base de la tranquillité, de Serge Borderès, aux éditions du CEPA du S.
Très bien. Bien, écoutez, cette émission se termine. Je voudrais quand même dire un petit mot sur, parce qu'on nous le demande, les émissions Orion Chemin de l'Espace, qui sont diffusées sur RCF Le Puy. Vous pouvez les réécouter, bien entendu, en replay, hein, sur le site de RCF. Vous pouvez aussi les retrouver sur le site Orion 43.fr à la rubrique Orion Radio, et vous avez effectivement toutes les archives de toutes les émissions
voilà.
C'est aujourd'hui la 45e, voilà. Donc sur des sujets différents, vous pouvez effectivement les consulter sur le site Orion43.fr. Dernier petit mot, notre association Orion Astronomie du Velay va reprendre ses activités d'été, en particulier ses observations l'opération ou sur le site de l'Observatoire du BETS. Et là aussi, vous pouvez trouver les dates, les conférences qui seront données selon les dates à partir du mois du mois prochain.
Oui.
Du mois prochain. Et une soirée chaque semaine durant le mois de juillet, le mois d'août. Et avec les Nuits des Étoiles.
Oui, et une soirée donc observation ouverte au public qui sera le vendredi 26 avril.
26 avril.
Mais vous retrouvez tout ça sur le site.
Voilà, RCF sera présent, reste bien entendu, nous sommes partenaires fiables, durables, et donc on aura l'occasion de vous reparler de tout ça et peut-être même d'une émission en direct sur le site du BETS. Voilà, au revoir Jean-Michel.
Au revoir Gérard.
Et au revoir à tous, au mois prochain.
5, 4, 3, 2, 1. Top. Allumage Vulcain. Décollage.